Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G qui adorait les films policiers avec un journaliste honnête et naïf confronté à la gangrène par la mafia d'une petite ville américaine de province, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, John Forsyth et le journaliste Jim Austin. Il fait honnêtement son travail dans la meilleure des petites villes américaines quand un détective apeuré vient lui raconter une histoire à laquelle il ne croit d'abord pas. Mais quand on retrouve le corps assassiné de ce même détective, il commence à se poser des questions sur la gangrène de la ville. Et puis, il est à son tour l'objet de pression de la part d'honnêtes citoyens. Mais il est obtus. Et il peut compter sur Joanne Camden, sa femme, pour l'épauler et partir au Sénat raconter son histoire. Mais la route est semée d'embûches. La ville captive de Robert Wise, c'est maintenant.
My name is Austin, James D. Austin, the Kennington Journal. We need some protection.
Who from?
Two men following us in a car. They're out to kill us.
Oh, relax, mister. Ain't anybody gonna kill you here.
Don't be too sure of that. Look, Sergeant, I've got to get to the Capitol this morning, and alive, preferably. How do I get an escort?
An escort? It ain't so simple. Who'd you say you was again?
Jim, the shotgun in his driveway last night.
This is what I'm talking about right here. And the same thing exactly could happen to us.
Well, it's kind of early, but I'll see if I can get the chief. 3-2-1.
Une commission sénatoriale contre la criminalité vient d'être lancée à Washington par Estes Kefauver. Sur une route de province, un couple fatigué fonce poursuivi par des bandits. Il finit par s'arrêter dans une petite ville à la porte d'un poste de police où le couple demande de l'aide. L'incrédulité du policier devant le discours qui peut sembler incohérent de l'homme ajoute à leur détresse. En attendant l'arrivée d'une escorte policière digne de ce nom, le journaliste Jim Austin se précipite sur un enregistreur pour raconter son histoire en cas de malheur. Lui, c'est un ancien soldat. Il a repris le Kennington Journal avec un de ses amis. Kennington, c'est une petite ville de 36 000 habitants à 500 km de Washington. C'est une bourgade paisible et son statut de rédacteur en chef du quotidien lui va à ravir. Mais arrive alors le détective privé Clyde Nelson. Lui, c'est un homme qui a enquêté pour le compte de l'ex-femme de Murray Sirac, notable de la ville. Et il a trouvé des pots de vin sur des paris clandestins. Un gang de Floride fait progressivement main basse sur la ville avec l'aide d'une police corrompue. Le détective ne tarde pas à mourir écrasé. Et Austin commence son enquête en allant voir Margaret Sirac et le chef de police Gillette. Avec un stagiaire, il suit le gangster Fabretti. Mais peu à peu, l'étau se resserre autour de lui et des notables, certains de ses amis d'ailleurs, commencent à lui mettre une gentille pression. Marge, sa femme, a peur. C'est pourtant elle qui va sonner la révolte et épauler son mari. Ensemble, ils vont prendre la route pour témoigner à la commission contre la criminalité. Mais une voiture de gangsters fait déjà le siège de leur maison.
By the time I'd dropped Marge off at the house and driven over to the morgue, it was midnight. I wasn't any too pleased with myself right then. Somehow I couldn't get rid of the thought that if I hadn't brushed Nelson off, he might still be alive. I also felt that there were a couple of questions that needed to be answered.
What makes you so sure it was hit and run? Guy telephoned me. I tell you, he was in trouble. And on top of that, if his car is still at home, how did he get out on the highway? Fly?
Well, what's the verdict, Del?
Yeah, we went all over him, Lieutenant. A lot of multiple fractures, but nothing that wouldn't be the result of his having been hit by a fast-moving car.
Satisfied?
No, I'm not satisfied. Seems to me you fellas are taking the easy way out.
Thank you, Mr. Nelson. That's all.
premier film produit par Aspen Productions, créé par les réalisateurs Robert Wise et Mark Robson, La Ville Captive est un honnête film de série B traitant de l'omniprésence de la mafia dans la ville. Fidèle à son habitude, Robert Wise nous offre une ambiance de film noir urbain en insistant sur le contraste entre le jour et la nuit. Tout le monde connaît ou presque Robert Wise. On lui doit West Side Story, La canonnière du Yangtze, Nous avons gagné ce soir. Ici, il tourne un film efficace, mu par un flashback qui réussit le tour de force à maintenir la dramaturgie, l'intensité et le suspense de l'histoire. Et pour réaliser ce film, pas de grandes stars. Des têtes plus ou moins connues, arc-boutées autour de John Forsyth, qui joue le journaliste. En 1952, année de tournage de ce film, John Forsyth n'est pas encore connu. Il n'a pas encore joué dans « Mais qui a tué Harry » ou « De sang-froid ». Mais il a déjà ce charisme, cet aspect débonnaire mais têtu à qui on ne la fait pas. Il tient presque ce film à bout de bras. On appréciera quand même les prestations tout en finesse des méconnus Marjorie Crossland et Hal Dawson, qui jouent tous deux respectivement la femme du notable Sirac et le détective. Tous deux sont en fin de course dans ce film, tous deux sont des losers magnifiques. Et on appréciera aussi la performance de Joanne Camden, plus connue pour ses rôles à la télévision comme dans la série Au-delà du réel, qui campe ici la femme du journaliste, impeccable quand elle dit un soir dans le country club de la ville, alors que des gens dansent autour d'eux sans les regarder, « Je ne suis pas sûre d'aimer les gens ».
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Le citoyen est responsable de la pègre qui s'installe en ville. Tel pourrait être le message de ce film. Avant d'y revenir, arrêtons-nous quelque peu sur un autre aspect du film. Il est tourné en 1952 et il dénonce l'omnipotence de la mafia, entité à l'époque assez nébuleuse, représentée ici par des gangsters venus de Floride qui agissent en toute impunité. Fabretti, leur chef, dispose de plusieurs noms d'emprunt et alors qu'il sévit aujourd'hui, n'est absolument pas recherché par la police qui le sait pourtant en ville. Dans le film, son repère est un peu excentré et il dispose d'une plateforme téléphonique pour les paris hippiques. La pierre angulaire dans la petite ville de Kennington, c'est Sirac, un entrepreneur qui n'a pas vu où était le mal à organiser des jeux de hasard et gagner un peu plus d'argent. Sauf qu'à un moment, il a été otage de son succès, puisque les gangsters ont débarqué. C'est la raison pour laquelle sa femme est partie. Et sa demande d'enquête à elle était aussi quelque part une tentative pour sauver son mari. Mais tous les citoyens influents de la ville sont responsables de cette gangrène. Et le chef Gillette de s'en expliquer à un moment avec Austin dans un discours compréhensible mais dangereux. Enfin, le film se conclut de manière un peu naïve, à l'image d'Austin au début de cette histoire, avec une commission sénatoriale qui va mettre un terme à la criminalité, alors qu'en même temps, l'un des messages du film est bien que la mafia est partout. Avec le recul, on comprend plus facilement qu'il s'agit plus d'un message de prévention vaine qu'autre chose. La Ville Captive de Robert Wise, c'est un film noir qui dénonce les petites compromissions qui gangrènent la société et font la grande criminalité. Et c'est en Blu-ray chez Rimini. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.